zambira samirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Nous sommes vendredi 20 novembre 2020. Vous suivez la radio Inzamba Gate Katawe. C'est l'heure du journal. D'abord les titres. Le 31 décembre 2020, le bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies au Burundi sera définitivement fermé. Décision prise unilatéralement par le gouvernement burundais et qui risque d'avoir de lourdes conséquences sur le pays, selon l'ancien vice-président Frédéric Bamvuguinho-Villa. La faillite des entreprises para-étatiques est principalement causée par leur mauvaise gestion ainsi que l'amalgame nourri sur les postes techniques et politiques, analyse d'un expert économiste après la visite du Premier ministre à l'ONATEL. Rien ne va plus entre le chef de secteur de Gachacha de la commune Rumongue et les jeunes Zimbonerakure qui l'accusent de corruption et de spoliation du patrimoine communal. Aux manettes, Jospin Duimana, à toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
L'horizon s'assombrit pour les employés de la société Onatel. Au bord de la faillite, l'Office national des télécommunications est sommé de concevoir rapidement une proposition en vue de sa réhabilitation. De leur côté, les responsables syndicaux de l'Onatel dénoncent certaines décisions du gouvernement qui ont littéralement affaibli la santé financière de cette société. Son personnel accuse 3 mois d'impayés de son salaire. Patrick Mitavaro.
Le syndicat du personnel de l'ONATEL a été associé dans la proposition de plan de redressement de cette société dont les signaux affichent déjà le rouge. Le Premier ministre, lors de sa descente à cette société de télécommunications, Alain Guillaume Wunyoni, n'a pas suivi les préoccupations du personnel. Prime Samutoto, un des responsables syndicaux, dénonce l'action gouvernementale comme étant à l'origine de la faillite de cette société.
En 1997, le même gouvernement a pris la décision d'étendre des horizons la libération du secteur. Il y a un document à propos. Nous avons émis nos doutes que cette libéralisation qui n'a pas été suffisamment préparée présage un échec. Autre chose, le capital de l'ONATEL injecté dans le BBS en 2008. Les concernés peuvent nous faire le montant placé dans le BBS en 2008. Nous attendons encore le feedback.
Des décisions maladroites selon les syndicats des travailleurs. Aujourd'hui, l'ONATEL peut-elle être redressable? En tout cas, la part des employés de cette société para-étatique n'est pas rassurante. Ils ont toujours alerté. Prime Samutoto rajoute que le rapport d'audit risque de peser lourdement sur le personnel de l'ONATEL.
On a toujours crié fort, réclamant l'audit pour redresser la société Onatel. Une note a été envoyée au gouvernement en 2017. Une équipe de la deuxième vice-présidence a étudié le dossier de 2017 à 2020. On attendait la réponse du gouvernement, mais en vain. Une faillite sans nom était prévisible à la fin de l'audit.
Le personnel de l'ONATEL vient de passer 3 mois sans être payé. Certains témoignages indiquent que le gouvernement a toujours nommé des directeurs généraux qui ont facilité des marchés indus et des concurrences déloyales pour des intérêts autres que ceux de la société. À moi, accordé par le Premier ministre Alain Guillaume Wunyoni, les attentes sont minimes chez les employés de l'ONATEL, pour autant que le premier responsable de la faillite reste le gouvernement lui-même. Certains employés âgés craignent des probables ruptures de contrat pour être remplacés par les plus jeunes. Des sources de l'ONATEL précisent que l'ONATEL et la régie des postes pourraient être combinés pour être une seule entreprise publique de télécommunications.
La mauvaise organisation des entreprises para-étatiques et la non-séparation des postes politiques et des postes techniques font partie des causes majeures qui font que les entreprises publiques tombent régulièrement en faillite. C'est l'analyse de Faustin Dikoumana, expert économiste, qui regrette que même les organisations de contrôle de l'État ne font pas correctement leur travail d'inspection. Faustin Dikoumana le dit à la suite de la visite du Premier ministre Alain Guillaume Bounioni à l'ONATEL. Suivez Faustin Dikoumana.
L'analyse qu'on peut faire de cette situation. D'abord, l'ONATEL opère dans un secteur où la concurrence est atroce avec d'autres intervenants. Le secteur de la télécommunication maintenant contribue grandement au produit intérieur brut. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont là. Donc, il faut un leadership et qui s'adapte à la situation de concurrence, qui sait anticiper, introduire des produits innovants pour que quand même il continue à opérer dans le secteur de façon concurrentielle pour étendre sa part du marché et avec ses produits innovants. Il faut une adaptation à la concurrence. En dehors de ça, les entreprises publiques ont toujours des difficultés dans des secteurs aussi dynamiques comme le secteur de la télécommunication. Deuxièmement, malheureusement, ces entreprises continuent à grossir des fois les charges de fonctionnement. Personnel pléthorique, surfacturage dans les marchés publics, approvisionnement des équipements défectueux ou des équipements non conformes, par exemple, et le détournement des fonds de l'entreprise. Et la direction qui continue des fois, les mandats qui donnent des primes ou des missions intempestives. Il faut voir comment régler tout ça pour maîtriser ces charges de fonctionnement. Mais malheureusement, aussi là où le bas blesse, c'est que les institutions de contrôle semblent avoir été paralysées. Il y a la Cour des comptes, il y a l'Inspection générale de l'État. Produire des rapports annuels, là où l'argent du contribuable est en train d'être géré dans les institutions publiques, ils doivent intervenir et produire des rapports annuels. Mais pour donner des instructions permettant à l'autorité compétente de prendre des mesures à temps. On ne comprend pas comment une entreprise peut être saignée à blanc pendant 5 ans de 2015 à 2020. Alors qu'on devait intervenir à temps, à partir de 2017, pour redresser donc l'entreprise. Un autre élément très important, c'est que le gouvernement doit vraiment appliquer la loi différenciant les postes politiques des postes techniques. Parce que si tout devient politique, si les nominations continuent à être tentées dans un aspect beaucoup plus politique, ça veut dire que les dirigeants, au lieu de s'attirer à produire les résultats, ils se sentent couvert par un certain bouclier de les partis politiques, et comme ça ils se disent que même les erreurs seront tolérées, seront les relations qu'ils ont avec telle ou telle autre autorité influente.
Le gouvernement burundais décide unilatéralement la fermeture définitive du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. La mesure sera effective le 31 décembre 2020 dans une note verbale que le ministre des Affaires étrangères a adressée au secrétaire général de l'ONU. Voilà trois jours, Albert Nshingiro indique que le Burundi n'a plus besoin d'une équipe politique des Nations Unies, mais juste d'un appui sur son plan de développement. Révérien Bazikamwe.
Cette note verbale revient sur les résolutions que le Conseil de sécurité des Nations Unies ont adoptées sur le Burundi en 2015, 2016 et 2017 dans le contexte d'insécurité liée à la candidature de Feu Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat qu'une bonne partie des Burundais ont jugé anticonstitutionnel. Le ministère des Affaires étrangères souligne la part des étrangers à l'origine de la crise de 2015 sans préciser leur identité. La note rappelle la collaboration du gouvernement burundais avec le secrétaire général des Nations Unies qui a abouti à la mise en place d'un bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi en 2016, à la tête duquel se trouvait Jamal Benomal qui a démissionné une année après. En mai 2017, après les consultations entre les partis, le secrétaire général des Nations Unies a nommé Michel Kafando pour remplacer Ben Omar. La note poursuit que Michel Kafando n'a pas à son tour renouvelé son mandat en novembre 2019 pour ses raisons personnelles. Elle ajoute que les consultations informelles d'après cette démission de Kafando, les partis s'étaient convenus de fermer le bureau fin du processus électoral et clôturé en août dernier sur les élections collinaires. Ambassadeur Albert Nshingiro ajoute que le bureau est resté sans titulaire ni une quelconque convention avec le gouvernement du Burundi après le départ de Kafando. Vers la fin de cette note verbale, le gouvernement du Burundi notifie le secrétaire général de l'ONU la fermeture formelle et la liquidation du bureau de l'envoyé spécial et du secrétaire général des Nations Unies au Burundi au 31 décembre 2020. Pour cause, la paix et la sécurité règnent sur tout le territoire burundais. Cette note intervient au moment où le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a récemment demandé aux nouvelles autorités du Burundi de prolonger le mandat de son bureau jusqu'au 31 décembre 2021. Il avait exhorté le gouvernement du Burundi par la même occasion de désarmer les civils en vue d'assainir le climat politique au Burundi.
C'est une décision qui pourrait isoler davantage le pays sur le plan international. C'est la crainte de Frédéric Bamvuginyumvira. L'ancien vice-président du Burundi indique que le gouvernement prend un risque énorme en chassant les organisations internationales et les donateurs du Burundi. On écoute Frédéric Bamvuginyumvira.
Nous sommes en train d'être dirigés comme une terre conquise et que par conséquent, ils n'ont plus besoin ni de qui que ce soit, si ce n'est que pour les écouter et qu'ils acceptent justement le dictat de ce CNDD-FDD qui veut s'imposer non seulement au Burundi mais au monde entier. Voilà ce qu'il faut noter. Peut-être, est-ce que ça pourra tenir, est-ce que ça pourra pas tenir, je ne sais pas. Mais quelles sont les conséquences? Les conséquences, bien entendu, c'est sur le peuple burundais. Le peuple burundais vit une pauvreté extrême depuis que le CNDD-FDD est au pouvoir. Les moyens de l'État sont concentrés dans les mains de quelques individus. Ça veut dire que l'argent est utilisé tout simplement pour servir les grands de ce CNDD-FDD. C'est tout. Les Burundais, leur rôle, c'est d'être peut-être soutirés tout le temps pour appuyer le parti au pouvoir. La deuxième conséquence, bien entendu, c'est la frustration du peuple qui est déjà là. Et on ne sait pas jusqu'où cette frustration, jusqu'où pourra aller cette frustration. Vont-ils réagir? Vont-ils continuer à se courber, à vivre une parfaite résignation? On ne sait pas. Mais l'autre conséquence, c'est sur les dirigeants du pays. Ils n'auront pas toujours de l'argent pour faire fonctionner les services de l'État. Je crois que c'est ça la grande question. Ce qui crée d'ailleurs des conflits entre lui et les autres organisations internationales. Parce que ces organisations ont des règles, ont des exigences que le gouvernement du Burundi ne veut pas respecter.
Mesures de prévention de la COVID-19 dans un lieu public. Un lieu public est tout endroit où se rassemblent plusieurs personnes. Les écoles, les églises, les marchés, les salles de cérémonie, les internats, les camps militaires et j'en passe. Comment protéger les gens dans ces lieux publics ? Encourager le lavage des mains régulier ainsi que le comportement positif lié à l'hygiène. Veiller à ce que les postes de lavage des mains soient accessibles et adaptés à tous, particulièrement aux enfants et aux personnes handicapées. Placer des flacons de solutions hydroalcooliques dans ces lieux publics. Nettoyer et désinfecter régulièrement les lieux en accordant une attention particulière aux surfaces avec lesquelles de nombreuses personnes sont en contact. Par exemple, les rampes d'escalier, les tables, les chaises, les poignées de portes et de fenêtres, et j'en passe. Installer partout des panneaux encourageant de bonnes pratiques d'hygiène.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agateka Kawe,
en partenariat avec Internews, financé par l'Union européenne.
L'organisation Amnesty International lance une campagne de plaidoyer de 2 mois pour les personnes victimes de leur lutte pour les droits d'autrui. Parmi les 10 personnes de 10 pays du monde qui sont visées par la campagne figure le défenseur des droits humains burundais, Germain Rukuki, qui est en détention depuis 2017. L'organisation plaide donc pour leur libération. Je vous propose de suivre Rachel Nicholson, chercheuse sur le Burundi au sein de l'organisation Amnesty International.
C'est la plus grande campagne de défense des droits humains dans le monde entier. Et chaque année, au mois de novembre et de décembre, nos membres et d'autres personnes prennent des millions d'actions en faveur des personnes détenues ou persécutées dans des pays du monde entier. Cette année, nous avons choisi 10 cas de défenseurs des droits humains et d'autres personnes persécutées en Algérie, au Chili, en Colombie, à Malte, au Myanmar, au Pakistan, en Arabie Saoudite, en Afrique du Sud, en Turquie et bien sûr, cette année, au Burundi. Nous demandons à nos membres d'écrire des lettres en faveur de la libération du défenseur burundais, Germain Rukuki, qui purge actuellement une peine de 32 ans en prison, seulement sur base de son travail légitime de droits humains. Nous demandons aux personnes d'écrire des lettres directement au gouvernement burundais et il y a des détails sur notre site de comment le faire. Il y a aussi une pétition où on peut signer directement pour demander sa libération immédiate et sans condition. On peut aussi faire des tweets et d'autres actions que vous allez trouver sur des médias sociaux. Mais d'importance égale, nous demandons aux personnes aussi d'envoyer des messages de solidarité à Germain et à sa famille pour montrer qu'ils ne sont pas oubliés. Il ne faut pas oublier comment les actions individuelles prises en solidarité puissent avoir un impact. Nous avons vu dans d'autres années que des personnes qui ont également été détenues pour des raisons injustes ont été libérées grâce aux actions des individus qui ont écrit des lettres dans les millions au gouvernement.
Et puis, cette pensée pour nos quatre consoeurs et confrères du journal Iwachu qui totalise aujourd'hui 396 jours d'incarcération. Ils sont accusés de tentatives impossibles de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et à une amende d'1 million de francs burundais chacun. 14 organisations de la société civile indépendante ont produit un rapport alerte sur le travail de la Commission Vérité et Réconciliation, la CVR en sigle au Burundi, Vital Nshimirimana, qui parle au nom de toutes ces organisations, indique que la CVR, ce que fait la CVR pour accepter, ne fait qu'accepter les massacres de 72, que sont un génocide des Hutus, en voulant toutefois occulter tous les crimes du régime actuel. La CVR, c'est de raviver les tensions interethniques au lieu d'être un outil de réconciliation. Suivez Vital Nshimirimana qui parle le nom de ces 14 organisations signataires de ce rapport.
L'organisation de la société civile montre que la CVR est devenue un outil de mobilisation de la population de l'ethnie Hutu derrière le sein des DFDD par reconnaissance forcée du génocide des Hutus en 1972 et ainsi occulter les crimes du régime. La CVR s'écarte de plus en plus de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation dont elle est l'émanation. Elle montre que le profil partisan de plusieurs commissaires affecte gravement la crédibilité de la CVR parce que la CVR est composée quasi exclusivement des membres du sein des DFDD ou des gens qui ont travaillé avec zèle et abnégation pour le compte du régime. Les exhumations qui se font heurtent la conscience de la majorité des survivants et victimes parce qu'elles sont faites en contradiction, en violation des règles d'art, sans prévenir les populations, sans les préparer, mais aussi elles aboutissent à des conclusions hâtives et erronées où tous les ossements retrouvés jusqu'à présent sont directement étiquetés comme ceux des victimes des massacres de 1972. Et nous avons aussi remarqué la présence des hauts cadres du sein des DFDD sur les sites d'excavation des ossements, ce qui signifie que ces hauts cadres y vont pour serrer le contrôle de la CVR. Et la communication de la CVR est très opaque parce que on ne peut pas retrouver une information actualisée sur ce que la CVR est en train de faire. Mais aussi, ce qui est davantage choquant, c'est que la CVR associe des auteurs du discours de la haine, comme Kenny Claude et Nduimana. Nous déplorons également la prévalence des commémorations soutenues pour les uns qui sont interdites pour les autres. La dernière en date concerne la commémoration de l'assassinat des élèves du lycée de Kibimba qui a été interdite par le gouverneur de province de Gitega. C'était la toute première fois depuis un quart de siècle.
Ces organisations demandent aux Nations Unies, à l'Union africaine, d'intervenir pour que la CVR soit réellement un outil de réconciliation. Suivez encore une fois Vital Chimilimana.
Nous recommandons à l'Union africaine et les Nations Unies, qui sont parmi les garants de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, d'user de leur influence pour amener le gouvernement du Burundi à mettre en place une CVR conforme à cet accord. Ceci éviterait que la CVR aboutisse à des résultats qui vont davantage diviser le peuple et raviver les tensions interethniques. Nous demandons aux organisations de la société civile, aux organisations internationales intéressées par la justice internationale, aux chercheurs et experts de collecter des témoignages et produire des rapports alternatifs pour contribuer à faire la lumière sur le passé douloureux de notre pays et empêcher le sein des DFDD et la présente CVR de cacher la vérité. Nous demandons au peuple burundais de ne pas céder aux discours incendiaires, divisionnistes et provocateurs des ténors du sein des DFDD et de certains commissaires de la CVR.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Le 20 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale dédiée aux droits de l'enfant. Au Burundi, les droits de l'enfant ne sont pas respectés alors qu'on observe encore des mères qui abandonnent leurs bébés. Le constat est fait par l'Observatoire de lutte contre la criminalité transnationale, Prime Mbarouk. Boukeye, représentant légal de cette organisation, demande au gouvernement de sensibiliser les administratifs à la base pour le strict respect de la Convention relative aux droits de l'enfant. On écoute Prime Mbarouk Boukeye.
Le chemin est encore très long. Et en effet, le cas illustratif et le plus éloquent est celui du délaissement d'enfants par sa propre mère, dont l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale a été saisi avec sa plus grande consternation et à la veille de la célébration de cette journée, et où la mère de l'enfant a procédé dans une discrétion hors du commun au rejet dans la brousse de l'enfant nouveau-né. Nous voudrions qu'aucun enfant burundais ne soit plus la cible de violence sous toutes ses formes, encore moins le rejet ou le délaissement des enfants de la brousse et comme on jette du fumier après avoir nettoyé sa propre maison. Tout ce qui précède donc, l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, où est ton frère, demande ce qui est le gouvernement de la République du Burundi. Et premièrement, de procéder aux sensibilisations de l'administration locale et de la population générale pour qu'il soit une peu plus vigilante afin qu'aucun enfant burundais ne retombe plus sous le coup du délaissement ou du rejet et autres violences dirigées contre l'enfant pouvant porter atteinte à son intégrité physique et psychique car l'enfant appartient finalement et en même temps à la communauté.
Et on termine par ce climat de méfiance qui se fait sentir entre le chef du secteur de Gachacha de la commune Rumangi et les jeunes Imbonerakure. Ces derniers accusent l'administratif de corruption et d'appropriation du patrimoine de cette commune, une situation qui a déjà entraîné l'emprisonnement de quelques-uns de ces Imbonerakure. Le point avec Belancine Nina Azoué.
Premier jeune a été arrêté ce lundi. Emmanuel Ndissabida, connu sous le sobriquet de Gisugulu, est sous les verrous au cachot du commissariat de la police de Rumangi. Il est accusé par le chef de la colline Gachacha d'avoir dénoncé la vente d'un poste téléviseur donné dans le cadre des lieux publics, un projet piloté par la Chine. Emmanuel Ndissabida n'est pas seul sur la liste. D'autres jeunes, Imbonerakure, peuvent être arrêtés d'un moment à l'autre et vivent actuellement en clandestinité. Frida Dagijimana est accusée d'avoir détourné aussi une somme d'à peu près 35 millions de francs burundais. Ces frais étaient destinés à la construction des ponts sur cette colline. Mais d'après les sources à Rumangi, aucun pont n'a été construit. La recherche de la vérité sur ces irrégularités a déclenché cette chasse aux Imbonerakure. Des sources au sein du parti CNDD-FDD affirment qu'Innocent Savioumva, secrétaire communal du CNDD-FDD, serait impliqué dans ces affaires et qu'il soutient ce chef collinaire. Certains représentants du parti sur cette colline ont été déjà remplacés pour faciliter cette dame dans ses bavures. Ces jeunes Imbonerakure crient au secours. Ils demandent que cette chef collinaire soit arrêtée et interrogée sur ses malversations. La famille du détenu, Emmanuel Ndissabira, demande qu'il soit relâché. La rédaction de la radio Inzamba a contacté par téléphone le chef de secteur Gachacha, Madame Frida Dagijimana, mais elle n'a pas décroché son téléphone.
Fun. Et c'est la fin de cette édition. Merci à Jospin Duimana pour sa partition technique, ainsi qu'à toute l'équipe de la rédaction de la radio Inzamba Agathe Kakawe pour la production de ce journal. À toutes, à tous, je vous souhaite un agréable week-end en compagnie de la radio Inzamba Agathe Kakawe. Portez-vous bien.